Chapitre 12. Restauration. Le second arracha Althéa de son profond sommeil en tirant délicatement sur sa manche. « Hé !» fit à mi-voix Grag Ténira. « Le capitaine veut te voir tout de suite. Il est de quart de rade, tu le trouveras sur le pont. Allez, debout !» Et il s'en alla sans même vérifier si elle obéissait. À peine une seconde plus tard, les pieds nus d'Althéa se posaient sur le plancher. Autour d'elle, le gaillard d'avant baignait dans le silence et l'obscurité. L'équipage avait quartier libre ce soir-là, et sans exception, tous ses membres s'étaient rendus à terre pour faire la fête. Althéa, qui avait plus envie de solitude que de bière, avait prétexté qu'elle n'avait pas assez d'argent, et elle était restée à bord pour dormir et fainéanter. L'Ophélie avait fait relâche dans un petit port insulaire nommé Rincetin, une des rares colonies parfaitement légales des îles du passage intérieur. Prospère, fondée à l'origine près d'un gisement stanifère et bénéficiant d'eau douce en abondance, la ville minière commençait à se transformer en un centre de commerce, et les habitants pouvaient s'offrir certains produits du désert des pluies que le capitaine Ténira avait à proposer. Il tirait aussi un joli profit en vendant les barils de viande salée qu'il avait embarqués à Jamelia, et il repartirait pour Terrilville avec une cargaison d'articles en étain. C'était un commerçant avisé, et malgré le peu de temps qu'elle avait passé à son bord, Althéa s'était prise peu à peu d'admiration pour lui. Alors qu'elle émergeait sur le pont et cherchait des yeux le commandant, la singularité de la situation lui apparut soudain. Le capitaine, de quart de rade au port? Et qui envoyait le second la chercher? Un horrible soupçon naquit en elle. Ophélie avait livré son secret? Quand Althéa repéra le commandant en train de fumer sa bouffarde près de la figure de proue, le soupçon devint certitude. Le jeune matelot perché sur le bastingage, non loin de là, devait être Grag, qui ne voulait pas manquer de voir Althéa démasquée. Elle sentit son cœur se serrer. Elle s'arrêta un instant dans les ombres pour refaire sa queue de cheval et se passer les mains sur le visage afin d'en effacer les traces de sommeil. Puis elle rajusta du mieux possible ses vêtements usés. Se faire jeter hors du moissonneur avait été éprouvant, mais cette fois ce serait pire. Ces hommes connaissaient sa famille et ils rapporteraient toute l'histoire à Terrilville. Eh bien, puisqu'il en était ainsi. Le menton levé, l'œil sec, le ton calme, se promit-elle. Courage et dignité. Elle aurait quand même apprécié que son estomac cesse de faire des nœuds. Elle aurait aussi apprécié de disposer d'un peu plus de temps pour se préparer. Comme elle se dirigeait vers l'avant, elle entendit s'élever dans l'air nocturne la voix au timbre riche d'Ophélie. Comme si la vive nef souhaitait qu'Althéa surprît ses paroles. « Et toi, Tommy Tonira, t'es en train de devenir un vieux gripsoumaniaque sans plus aucun sens de l'aventure. »
« Ophélie !»
fit le capitaine d'un ton menaçant.
« Il n'a plus aucun sens de l'humour non plus !»
fit Ophélie à Grag en aparté. La lumière de la lanterne de pont laissait le visage du second dans l'ombre, et Althéa n'entendit aucune réponse de sa part. Elle sentit un sourire ironique se dessiner sur ses lèvres. Que pensait aujourd'hui Greg Ténira de sa cavalière d'autrefois? Puis elle effaça son sourire et c'est les traits lisses qu'elle salua Ténira.
« À vos ordres, commandant !»«
En effet !»
dit le capitaine Ténira d'un ton appuyé. Il ôta sa bouffarde d'entre ses lèvres.
« Tu sais pourquoi nous t'avons fait venir, n'est-ce pas ?»
Althéa s'efforça de ne pas faire la grimace.
« J'ai bien peur que oui, commandant. »
Ténira se radossa au bastingage avec un grand soupir.
« Nous en avons parlé, Grag et moi. Ophélie a eu son mot à dire aussi et davantage, comme d'habitude. Je te dis ceci pour ton propre bien, jeune fille, emballe tes affaires. Grag te donnera un peu d'argent et t'accompagnera à terre. Il y a une pension bien tenue rue de la Palourde. Il t'y conduira.
« Bien, commandant, »
fit-elle désespérée. Au moins, il n'était pas furieux et ne lui jetait pas des accusations à la figure. En conservant sa dignité, il permettait à la jeune fille de garder la sienne et elle l'en remerciait. Mais la trahison d'Ophélie lui restait en travers de la gorge. Elle tourna son regard vers la figure de proue qui l'observait d'un air contrit par-dessus une épaule confortable.
« Je t'avais demandé de ne pas me dénoncer !»
lui dit Althea avec un doux reproche. Elle scruta le visage de bois.
« Je n'arrive pas à croire que tu m'aies vendu. »
« Oh, tu es injuste, ma chérie, très injuste !»
protesta Ophélie avec énergie.
« Je t'avais prévenu que je ne pouvais pas cacher un tel secret à mon capitaine. J'ai dit aussi que j'essaierais de trouver un moyen pour que tu restes à bord, si tu le souhaitais, sous ta véritable identité. Mais comment aurais-je pu m'y prendre sans révéler ton vrai nom ?»
Ophélie s'adressa au commandant.
« Tommy, tu joues au chat et à la souris avec elle. Ce n'est pas bien. Dis-lui le reste et tout de suite. Cette pauvre enfant s'imagine que tu as l'intention de l'abandonner ici. »
« L'idée vient d'Ophélie, pas de moi, »
répondit le capitaine à contre-cœur.
« Elle s'est entichée de toi. »
Il tira une bouffée de sa pipe pendant qu'Althea attendait la suite suspendue à ses lèvres.
« Drag va te donner de quoi t'arranger, prendre un bain, acheter des vêtements convenables et tout le tremblement. Demain après-midi, tu remonteras à bord sous l'identité d'Althea Vestrit et nous te ramènerons à Terrilville. »
Et encore ?» intervint Ophélie. « Tu ne sais pas le plus beau. Tu n'imagines pas le mal que j'ai eu à convaincre Tommy. Greg n'a pas posé de problème, naturellement. Il a un caractère facile, n'est-ce pas, mon agneau ?»
Elle poursuivit sans attendre le murmure d'assentiment du jeune homme.
« Tu feras fonction de second pour le restant du voyage »
annonça-t-elle d'un air de triomphe.
« Un jour à peu près, après notre départ de Rincétin, le pauvre Greg va être pris d'une telle rage de dents qu'il devra rester alité, et Tommy te demandera de prendre sa place parce qu'il sait que tu naviguais avec ton père. »
Greg se pencha pour examiner l'expression d'Althea. La voyant éberluée, il éclata de rire et ses yeux bleus se tournèrent vers Ophélie pour partager son ravissement.
Althea n'en croyait pas ses oreilles. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « Mais comment pourrais-je vous remercier ?»
Le capitaine Ténira retira sa pipe de sa bouche.
« En faisant parfaitement ton travail, de façon qu'on ne raconte pas ensuite que j'étais complètement fêlé de t'employer. Tu peux aussi me remercier en gardant secret le fait que tu as navigué sur l'Ophélie sous l'identité d'un garçon sans que j'en sache rien. »
Il se tourna brusquement vers la figure de proue.
« Et j'espère que tu sauras tenir ta langue là-dessus aussi, espèce de vieille commère. Pas un mot à quiconque, homme ou bateau. »«
Voyons, Tommy, comment pourrais-tu douter de moi ?»
se récria Ophélie en levant les yeux au ciel et en portant une main à son cœur dans un geste théâtral de douleur. Puis elle fit un grand clin d'œil à la jeune fille. On entendit Greg s'étrangler. Et son père se tourna brusquement vers lui.
« Cesse de ricaner bêtement, mon gars. On se moquera autant de toi que de moi si cette histoire se répand. »
« Je ne ricane pas, capitaine, »
mentit gaiement Greg. « Je me réjouis simplement à l'avance de pouvoir bouquiner et fainéanter jusqu'à Terrilville. » Il jeta un coup d'œil à Althea pour partager sa plaisanterie. Son regard s'attarda sur son visage. Et elle songea qu'il cherchait à reconnaître, sous ses vêtements douteux de mousse, la jeune fille qu'il avait rencontrée autrefois.
Elle baissa les yeux, gênée, tandis que le commandant déclarait à son fils « Ça, je te fais confiance. Mais tiens-toi prêt à retrouver la santé en vitesse, si jamais j'estime avoir besoin de toi sur le pont. »
Le capitaine Ténira se tourna vers Althea, et c'est presque d'un ton d'excuse qu'il ajouta
« Je ne dis pas que ça se produira, attention. Il paraît que tu obéis prestement et que tu es aussi vive que les meilleurs matelots. Bon, eh bien, vois-tu un problème à repasser de l'état de garçon à celui de fille ?»
Althea secoua la tête en réfléchissant. « Je peux descendre à la pension sous mon identité de mousse, y faire ma toilette et... demain matin, faire des courses en ville pour trouver des cadeaux destinés à ma sœur. Ensuite, je regagne ma chambre, je me change, j'arrange ma coiffure,
et je m'éclipse par la porte de derrière sans me faire remarquer, j'espère.
Eh bien, souhaitons que tout se passera aussi simplement.
Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, commandant. Comment vous remercier tous ?
Althea engloba Ophélie dans son regard chaleureux.
Il y a quand même une chose que j'aimerais te demander, dit le capitaine Ténira.
Au ton embarrassé qu'il avait employé, Althea se raidit.
Quoi donc, commandant ?
Ophélie nous a parlé de ta situation vis-à-vis de ton bateau. Si tu me passes cette audace, jeune fille, je te conseille de t'arranger pour que cette affaire ne sorte pas de votre famille. Bien sûr, je me porterai garant pour toi si tu me prouves ta valeur. Je te remettrai une étiquette avec le tampon de second si tu exécutes bien ton travail. Je te soutiendrai au conseil des marchands et je parlerai pour toi le cas échéant. Mais j'aimerais autant qu'on n'en arrive pas là. Les affaires de la famille Vestrit doivent se régler sous le toit des Vestrit.
Je connaissais ton père, pas très bien, mais assez pour savoir que c'est ce qu'il préférerait.
« Je vous le promets, si c'est possible, capitaine, » répondit Althea d'un ton grave. « C'est ce que je préférerais, moi aussi. Mais si j'y suis obligé, je recourrai à tous les moyens pour récupérer mon bateau. »«
J'étais sûr qu'elle dirait ça !»
fit Grag d'un ton victorieux. Il échangea un regard triomphant avec Ophélie.
« J'ai connu ton arrière-grand-mère, » dit Ophélie. « Et tu lui ressembles beaucoup, physiquement et moralement. » Elle souhaiterait que tu commandes son bateau.
Ça, c'était une femme qui savait naviguer.
Je me rappelle le jour où elle a fait entrer pour la première fois la Vivacia dans le port de Terrilville. Il y a même une note sur l'événement dans mon journal de bord, si tu veux la voir. Il y avait une belle brise et...
Le capitaine Ténira l'interrompit. Pas maintenant.
Il regarda la jeune fille dans les yeux.
« J'ai des raisons de te demander de régler les affaires des Vestrit au sein de la famille Vestrit, des raisons égoïstes. Je ne tiens pas à ce qu'on me voie prendre parti pour un marchand contre un autre. »
Devant la mine perplexe d'Althea, il secoua la tête.
« Tu es parti de Terrilville depuis longtemps, et la situation devient tumultueuse là-bas. Ce n'est pas le moment de dresser les marchands les uns contre les autres. »
« Je sais, » répondit la jeune fille à mi-voix. « Nous avons assez de problèmes comme ça avec les nouveaux marchands. »«
J'aimerais que nous n'ayons que cela, »
s'exclama Ténira avec ferveur. « Mais je crains que nous ne devions nous attendre à pire encore. »«
J'ai appris la nouvelle à Jamelia. »« Sais-tu ce que ce petit imbécile de gouverneur a fait ?»« Il a engagé des mercenaires chalcédiens comme corsaires » pour patrouiller dans le passage intérieur. Il paraît qu'il leur a octroyé le droit de faire relâche à Terrilville pour embarquer de l'eau et des vivres, et gratuitement, s'il te plaît. D'après lui, c'est le moins que Terrilville puisse faire pour aider à chasser les pirates. Quand nous avons quitté Jamelia, son bateau messager était parti depuis 2 jours, avec des documents autorisant l'officier des douanes du gouverneur à faire en sorte que ces mercenaires chalcédiens soient bien traités, à recueillir des contributions pour leur approvisionnement, selon sa jolie tournure de phrase.
Nous n'avons jamais autorisé des navires chalcédiens armés à entrer dans le port de Terrilville, seulement des marchands, observa Althea à mi-voix.
Tu comprends vite, fillette. À mon avis, Terrilville leur refusera l'autorisation. Il sera d'ailleurs intéressant de voir dans quel camp les nouveaux marchands se regrouperont. Je crains qu'il n'y en ait davantage pour soutenir le gouverneur et ses chiens chalcédiens que...
Ophélie l'interrompit.
Tommy, garde tes histoires de politique pour plus tard. Tu auras le temps de l'assommer avec ça lors de tous les repas d'ici à Terrilville. Le plus urgent, c'est qu'Athel redevienne Althea.
Son regard rencontra celui de l'intéressé.
« Allez, fillette, va chercher tes affaires. Grag t'accompagnera à terre jusqu'à la porte de la pension. »
Elle eut un sourire égrillard et elle fit soudain un clin d'œil au second.
« Et fais attention à bien te tenir, Grag,
car sinon Althea viendra tout me raconter.
Allons, vas-y, mais veille à ne pas dépasser le pas de la porte. »
L'humour de la vive nef parut démonter Althea davantage que Grag. Il devait y être habitué.
« Merci, commandant, » dit-elle au capitaine Ténira en bredouillant.
« Je vous suis infiniment reconnaissante. »
Et elle s'éloigna en hâte dans les ombres pour dissimuler son visage. Quand elle reparut sur le pont, Grag l'attendait près du panneau de cale. Elle jeta son sac de marin sur son épaule en appréciant que le jeune homme ne propose pas de le porter à sa place. Elle le suivit le long de la passerelle, puis par les venelles qui montaient vers la ville. Il marchait à vive allure. Althea ne trouvait rien à dire et il paraissait aussi mal à l'aise qu'elle. La nuit était douce et la lumière des tavernes à matelots devant lesquelles il passait éclairait les rues. Quand ils arrivèrent à la porte de la pension, Grag s'arrêta.
« Voilà, nous y sommes, »
fit-il d'un air gêné. Il hésita comme s'il voulait ajouter un mot. Althea décida de le mettre à l'aise.
« Puis-je vous offrir une bière ?»
demanda-t-elle en indiquant la taverne d'en face. Il jeta un coup d'œil à l'établissement, et ses yeux bleus étaient écarquillés quand il les ramena sur Althea.
« Je ne crois pas que je m'y sentirais bien, » dit-il avec franchise. « Et puis mon père m'écorcherait vif si j'emmenais une dame dans un endroit pareil. »
Au bout d'un moment, il ajouta
« Mais merci quand même. »
Pourtant, il ne fit pas mine de s'éloigner. Althea baissa la tête pour dissimuler son sourire.
« Eh bien, bonne nuit dans ce cas. »
« Oui. »
Il agita les pieds, embarrassé, puis remonta son pantalon d'un coup sec.
« Je dois vous retrouver demain pour vous ramener au navire, et il faut que ça se passe comme par hasard, selon ce qu'a dit Ophélie. »
Il baissa les yeux.
« Je n'ai pas envie de vous chercher dans toute la ville. Voulez-vous que nous nous donnions rendez-vous quelque part ?»
Il releva les yeux vers elle.
« Ce serait une bonne idée, »
dit-elle à mi-voix.
« Que proposez-vous ?»
Il détourna le regard.
« Il y a un établissement au bout de la rue, là-bas. »
Il pointa le doigt dans l'obscurité.
« Ça s'appelle chez Eldoua.
On y sert de la soupe de poisson et du pain frais, c'est très bon.
On pourrait s'y retrouver. Je vous offrirai à déjeuner et vous pourriez me raconter vos aventures depuis votre départ de Terrilleville. »
Ses yeux rencontrèrent ceux d'Althea et il parvint à sourire.
« Ou bien... « depuis la dernière fois que nous avons dansé ensemble. »
Ainsi, il n'avait pas oublié. Elle lui rendit son sourire. Il avait un visage honnête, ouvert et franc. Elle songea à ce qu'elle avait vu de lui, en particulier la relation qu'il partageait avec son père et Ophélie. L'affection et l'absence de retenue qui existaient entre eux suscitèrent soudain en elle la soif de plaisanteries simples et de moments de pure convivialité. Quand elle sourit au jeune homme, il se mit à rayonner avant de détourner les yeux.
« À demain midi, donc, »
dit-elle d'un ton amène.
« Parfait. Parfait, c'est entendu. Eh bien, bonne nuit. »
Et c'est presque avec précipitation qu'il prit congé. Il remonta son pantalon une nouvelle fois, puis repoussa sa coiffe sur l'arrière de son crâne. Althea sourit en le regardant s'éloigner. Il avait la démarche vive et chaloupée d'un marin, et il revint à la jeune fille qu'elle avait trouvée très bon danseur.
« Tu sais quoi ?» demanda Tarlok d'une voix d'ivrogne. « Je te connais, je suis sûr que je te connais. »
« Pas étonnant, je suis le second de ton bateau !»
répondit Brashen avec dégoût. Il pivota sur son siège pour ne pas être obligé de faire face aux matelots, mais Tarlok ne saisit pas le sens de son geste.
« Non, non, je veux dire, ouais, c'est vrai, t'es le second du veille du printemps, mais je t'ai connu avant, bien avant !»
Avec des mouvements exagérément précautionneux, il s'installa près de Brashen. Un peu de bière déborda de sa chope quand il s'assit. Son voisin, sans se tourner vers lui, prit sa propre chope et but comme s'il n'avait pas remarqué sa présence. Dans la taverne, Brachen était seul à sa table, avant que le vieux poivreau grisonnant vînt le rejoindre. Il avait envie de solitude. C'était le premier port où le veille du printemps faisait relâche depuis leur départ de Chandelle, et Brachen avait besoin de temps pour réfléchir. Son poste était à peu près tel qu'il se l'était imaginé, et ses responsabilités à bord d'un bâtiment à faible tirant d'eau étaient loin d'excéder ses capacités. La plupart des hommes travaillaient sur le navire depuis un certain temps et connaissaient assez bien leurs tâches. Il avait dû appuyer ses ordres de quelques coups de poing, surtout lors de sa prise de fonction, mais cela n'avait pas été une surprise. Les matelots défiaient toujours un nouveau second, qu'il vînt de l'extérieur ou qu'il sortît de leur rang. Les marins étaient comme ça. Posséder des connaissances et du savoir-faire ne suffisait pas. Un second devait savoir se servir de ses poings pour se faire obéir. Brachen en était capable, ce n'était pas le problème. C'était ses missions à terre qui le gênaient. À l'origine, le navire suivait la côte de Jamelia vers le nord en cabotant le long d'un littoral de plus en plus découpé. À présent, il s'aventurait d'île en île et frôlait ce qui, de notoriété publique, était territoire pirate, jusqu'à y pousser des incursions. La petite ville où il était mouillé était typique de la région. On n'y trouvait guère qu'un quai et une poignée d'entrepôts bâtis sur des fondrières malsaines, deux ou trois tavernes abritaient quelques prostituées fatiguées, et des cabanes à l'air miséreux défiguraient la colline derrière les établissements. Brachen ne voyait aucun motif à l'existence de ce hameau. Pourtant, il avait passé tout l'après-midi, une épée suspendue à la ceinture et un gourdin à la main, surveillant les arrières de son capitaine et restant debout auprès de lui, alors qu'il était assis à une table dans un des entrepôts. Entre les pieds de son commandant, il avait vu un coffre rempli d'argent. Trois des loups de mer les plus inquiétants que Brachen eût jamais vus avaient apporté des échantillons de marchandises et on avait négocié les prix. L'état et la diversité des produits trahissaient leurs sources. Brachen avait éprouvé un brusque sentiment de dégoût envers lui-même quand son capitaine s'était tourné pour lui demander son avis sur des manuscrits éclaboussés de sang, mais amplement enluminés. « Que valent-ils ?» avait demandé le capitaine Fainy. Brachen avait repoussé un affreux souvenir.
« Pas qu'on se fasse tuer à cause d'eux !»
avait-il répondu sèchement. Fainy avait éclaté de rire, puis proposé un chiffre. Brachen ayant acquiescé de la tête, les pirates qui vendaient leur butin s'étaient brièvement concertés, puis avaient accepté la somme. Brachen s'était senti souillé par cette transaction. Dès le début, il avait soupçonné, le veille du printemps, de faire le trafic de ce genre de produits, mais jamais il ne s'était imaginé en train d'examiner de la marchandise couverte de sang humain.
« Tiens, voilà ce que je te propose !»
fit Tarlok d'un air matois.
Je prononce un nom. Si tu te le rappelles, tu me fais un clin d'œil et on n'en parle plus. Plus jamais.
Par-dessus son épaule, Brachen répondit à mi-voix.
Et si tu la fermais tout de suite, que t'arrêtais de m'énerver et que je te collais pas deux yeux au beurre noir?
C'est pas une façon de parler à un ancien compagnon de bord,
fit Tarlok d'un ton geignard. L'homme était trop saoul pour son propre bien. Trop ivre pour comprendre le sens d'une menace, mais pas assez pour rouler sous la table. Néanmoins, Brachen pouvait remédier à cette dernière possibilité. Il changea de tactique et se retourna vers Tarlok en se forçant à sourire.
« Tu as raison, tu sais. Je ne me rappelle pas avoir navigué avec toi, mais qu'est-ce que ça change? Puisqu'on est compagnons de bord aujourd'hui, buvons ensemble. Garçon, du rhum par ici. » Et du bien sombre. Pas la bière pisseuse que tu nous as servie jusqu'ici. »
L'expression de Tarlok s'illumina considérablement.
« Ah ben, j'aime mieux ça »
fit-il d'un ton approbateur. Il prit sa chope et avala rapidement la bière qu'elle contenait afin d'être prêt pour l'arrivée du rhum. Il s'essuya la bouche du revers de la main et fit à Brachen un sourire rayonnant qui laissa voir ses chicots.
« Il me semblait bien t'avoir reconnu dès que t'es monté à bord, je te jure.
Mais c'est que ça fait un bout de temps. Voyons combien. 10 ans. Il y a 10 ans. À bord de l'espoir.
Le désespoir. Brachen avala une lampée de sa propre chope et fit semblant de réfléchir.
« Moi, tu veux dire, il y a 10 ans ? Tu te trompes, mon gars. Il y a 10 ans, je n'étais qu'un gosse, rien qu'un gosse. »
« Sera était qu'un gamin. C'est pour ça que j'étais pas sûr au début. T'avais pas un poil au menton à l'époque. »«
Non, en effet, » acquiesça son interlocuteur d'un ton affable. Le garçon se présenta, porteur d'une bouteille et de 2 verres. Brachen serra les dents et paya l'alcool, puis, avec un sourire complice à Tarlok, il poussa de côté un des 2 verres et déversa le rhum qui émit un gargouillis joyeux dans la chope vide du matelot. Tarlok était aux anges. Brachen se servit de façon beaucoup plus modérée, puis leva son verre.
« Aux compagnons de bord d'hier et d'aujourd'hui !»
Puis ils burent. Tarlok avala une solide rasade de rhum, eut un hoquet, puis se radossa avec un soupir.
Il se grattait avec énergie le nez et la barbe. Soudain, il pointa le doigt sur Brachen.
« L'enfant du vent !»
s'exclama-t-il avec un grand sourire ébréché.
« C'est ça, non ?»«
Quoi donc ?»
demanda Brachen d'un air détaché. Les yeux plissés, il observa l'homme tout en buvant lentement une gorgée de rhum. Tarlok suivit son exemple et avala une lampée de sa chope.
« Allons, voyons »
fit-il au bout d'un moment d'une voix sifflante.
« T'étais sur l'enfant du vent quand on l'a abordé. T'étais un petit gamin tout sec et nerveux qui s'est mis à cracher et à griffer quand on a voulu le faire descendre de la mâture. T'avais tout juste un couteau pour te défendre, mais tu t'es battu jusqu'à ce que t'en puisses plus. »
« L'enfant du vent ?»«
Non, ça ne me dit rien, Tarlok. »
Brachen mit une note de menace dans sa voix.
« Tu ne vas pas me raconter que tu étais pirate, si ?»
L'homme était trop stupide ou trop saoul pour nier. Il éclata d'un rire d'ivrogne dans sa chope en faisant gicler le rhum, puis se laissa aller contre le dossier de sa chaise pour s'essuyer le menton avec sa manche.
« Hey, comme nous tous ici. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul gars dans toute cette pièce qui ait jamais fait un peu le pirate ?»«
Non, monsieur. »
Il se pencha de nouveau et prit un ton confidentiel.
« T'as pas été trop lent à signer le rôle quand tu t'es retrouvé avec une lame contre les côtes ?»
Il se radossa.
« Mais si je me souviens bien, tu te faisais pas appeler Brachen Trell de Terrylville en ce temps-là »
Il frotta son nez rougeau en réfléchissant.
« J'essaye de me rappeler, » dit-il d'une voix bredouillante.
Il s'appuya lourdement sur la table, puis posa sa tête sur ses bras.
« Me rappelle pas ce que c'était, mais je me souviens de ton surnom. »
Il leva un gros doigt et le pointa vaguement vers Brachen.
« La fouine, à cause que t'étais tout maigre et vif comme pas deux. »
Les paupières de l'homme se fermaient petit à petit. Il prit une longue inspiration et se mit à ronfler. Sans bruit, Brachen quitta sa place. Les marchandises devaient être presque toutes chargées à présent. Il n'en faudrait pas beaucoup pour hâter un peu le départ du bateau. Peut-être en se réveillant, Tarlok s'apercevrait-il que son navire était parti sans lui. Ce ne serait pas le premier matelot à s'enivrer et à se retrouver abandonné à terre. Brachen baissa les yeux sur l'homme qui ronflait. Les années n'avaient pas été tendres avec lui depuis l'époque de l'enfant du vent. Brachen ne l'aurait pas reconnu s'il n'avait pas dévoilé son identité. Il prit la bouteille de rhum, puis dans un accès de générosité, il la reboucha et la nicha au creux du bras du vieux pirate. Si Tarlok se réveillait trop tôt, il y avait des chances qu'il retarde son retour au bateau pour avaler une lampée ou 2. Et s'il reprenait conscience trop tard, peut-être le rhum lui apporterait-il quelques consolations. Brachen n'avait rien contre lui, sauf qu'il lui remettait en mémoire
un temps qu'il aurait préféré oublier. La fouine, se dit-il en quittant la taverne pour affronter le brouillard glacé du début de soirée. Je ne suis plus la fouine. Comme pour s'en convaincre, il prit une barrette de sardine dans sa poche et en trancha un bout d'un coup de dent. Alors qu'il se fourrait la chique dans la joue, l'âcreté de la drogue lui fit monter les larmes aux yeux. Il n'en avait sans doute jamais eu d'aussi bonne qualité. Et c'était un cadeau de séparation que lui avaient fait les pirates avec lesquels le capitaine et lui avaient négocié plus tôt dans la journée. Une barrette de sardine gratuite. Non, il n'était plus la fouine, songea-t-il avec un sourire forcé en dirigeant ses pas vers le quai où l'attendait le veille du printemps. La pauvre fouine n'avait jamais goûté à pareille sardine.